Effect.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur 48 FM, il est 18h14. Bienvenue dans cette émission spéciale présentée par Chloé Olivier.
Merci Yves, bonjour à toutes et à tous. C'est une recherche commune qui nous réunit ce soir et surtout un élément incontournable de notre folklore national, la jupilère. Vous êtes beaucoup à en connaître le goût, mais très peu savent qui se cache en réalité derrière sa création. Un document d'époque pourrait pourtant nous apporter plus de certitude autour de cette question. La recherche de ce créateur de la jupilère, c'est avant tout le projet d'une petite fille, Christine Martinive, qui aimerait en savoir plus sur l'héritage laissé par son grand-père Alexandre. C'est une soif non pas de bière, mais bien d'en savoir plus sur l'histoire d'un homme qui a laissé son empreinte sur un morceau de Belgique. Pour discuter de cette enquête, j'accueille ce soir à mes côtés trois invités. Face à moi dans le studio, Thomas Carabin et Thomas Radou. Bonjour.
Bonsoir.
Deux étudiants en première année de master en journalisme à l'Université de Liège. Dans cette histoire, vous avez fait vos premiers pas dans le monde de l'investigation, on peut le dire. Et nous revenons vers vous dans quelques instants. Et à leur côté, Christine Martinive.
Bonsoir.
Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté de nous rejoindre pour cette émission spéciale. Comme je l'évoquais il y a quelques instants, vous êtes la petite fille d'Alexandre Martinive, le supposé père de la jupilère. Au départ, vous disposez uniquement d'une valise remplie d'une flopée de documents administratifs d'époque. Certains de ces documents évoquent l'implication de votre grand-père dans la création de la jupilère, mais surtout un en particulier. Dans le lot, vous êtes tombé sur un fameux discours en l'honneur du départ à la retraite d'Alexandre Martinive en 1961. C'est un document tout à fait inédit qui présente votre grand-père comme le chef du laboratoire de la brasserie Piedbœuf. Voilà ce que dit ce fameux discours.
Pendant toutes ces années, vous avez savamment dosé et amoureusement surveillé ces bières dont vous étiez un peu le père. D'aucuns ici présents se souviendront des séances de dégustation de bières revenant des dépôts. Ils parleront encore de ces bières pudiquement voilées que vos yeux de père voulaient voir quand même belles et brillantes. Plus proche de nous, il y a eu le triomphe de la triple Piedbœuf. Enfin, couronnant le tout, la naissance de votre dernier enfant, la jupilère.
Donc Christine Martinive, ce discours, il parle de votre grand-père. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus à son propos? Est-ce que vous l'avez connu? Qui était Alexandre Martinive au fond?
Eh bien justement, c'est ça que je veux savoir. Je ne l'ai pas connu du tout. Et je n'en savais que finalement ce qu'on buvait le soir à table. Et comme tout le monde à l'époque. J'en ai jamais su plus ou beaucoup plus, parce que mon père n'en parlait que par petits morceaux, petites bribes.
D'accord, mais son histoire personnelle, elle est assez singulière, si je ne m'abuse.
Oui, il a marché des kilomètres pour échapper à l'ennemi et pour échapper à la mort, surtout. En passant par la Pologne, la Tchéquie, et puis la Belgique, et il s'est arrêté à Liège.
En venant d'Ukraine, donc.
Exact.
D'accord. Du coup, c'était vraiment quelque chose dont on ne parlait pas chez vous?
Non, puisqu'il est réfugié politique, donc ça veut dire que si jamais quelqu'un le sait, il risquerait d'être envoyé là-bas, il risquerait d'être tué. Donc, a priori, on dit à mon père et à son frère de se comporter de façon telle qu'on n'ait rien à leur reprocher. Donc, on ne parle pas. Et donc, voilà, je pense que mon père a continué là-dedans. Et même si on posait des questions, on avait quand même assez peu de détails, finalement.
Ok. Mais cette bière, finalement, ça a quand même une symbolique assez particulière, je pense, dans votre famille. Est-ce que c'est une fierté? Comment est-ce que vous qualifieriez ça?
Oui, bien sûr. Enfin, c'est assez... Disons que ça a toujours été évident que c'était lui qui l'avait fait. Alors, voilà, quand on est enfant, c'est lui qui a fait la jupilère, c'est lui qui a fait la jupilère. Ça n'a pas vraiment d'importance. Et puis, en grandissant et quand on commence à être étudiant... Et aller en soirée, on se rend compte que, tiens, finalement, celui qui a inventé la jupilère, ce n'est pas n'importe quoi, au fait, la jupilère, parce qu'on ne le sait pas quand on a 10 ans, mais quand on a 20 ans, on s'en rend bien compte. On se rend compte que beaucoup de personnes en boivent. Et c'est au fur et à mesure des années, en fait, que je me rends compte de l'importance que ça a. Et en vieillissant, je me dis, maintenant que mon père est parti, plus personne ne peut me raconter son histoire puisqu'il n'est plus là. Et donc là, je me dis, il faut absolument que je recherche le plus possible d'informations parce que sinon, je n'aurai rien à en dire à mes enfants.
D'accord. Et vous tombez sur ce document. Qu'est-ce qui vous amène finalement aujourd'hui dans ce studio à venir nous raconter cette enquête qui a été du coup menée par Thomas Carabin et Thomas Radou?
Une soirée avec un ami, David, pour ne pas le citer, où effectivement on en boit et on discute et où je dis bah tu sais la bière que t'es en train de boire c'est quand même mon grand-père qui l'a inventée. Ah bon? Et donc de là voilà par tout le départ de l'enquête et je vous en remercie d'ailleurs.
Mais c'est nous qui vous remercions d'être là. Si l'on en croit du coup ce discours et votre témoignage, il reste peu de place au doute. Monsieur Martiniv est l'inventeur de la Jupiler. Pourtant, et c'est étonnant, personne durant cette enquête ne semblait être au courant de cette situation. Pas même du côté finalement d'AB InBev, la multinationale qui est aujourd'hui propriétaire de la brasserie Pied de Bœuf. AB InBev, pour rappel, c'est le plus grand brasseur au monde. Rien que sur le site de Jupy, ce sont jusqu'à 670 millions de litres de bière qui sortent annuellement des cuves et des tuyaux. Beaucoup de pression donc, mais peu d'archives, si je ne m'abuse, Thomas Carabin.
Ben oui, effectivement, ça nous a vachement interpellés, donc ben, on a voulu en savoir plus. Donc assez logiquement, comme tu l'as dit, on a contacté AB InBev pour voir s'ils avaient plus d'informations. Ben, le souci, c'est que la porte-parole n'a pas le temps, ou en tout cas ne le prend pas, elle ne nous donne pas accès aux informations dont on a besoin, à part elle nous donne les références d'un livre en anglais qui retrace l'histoire officielle de la brasserie, dedans aucune mention évidemment de Martiniv, ni même d'aucun autre employé. Ben, c'est une histoire vue par les actionnaires de la firme au final, et... voici d'ailleurs un extrait que nous allons vous lire. Alors, ce qui suit est précisément le début d'une nouvelle ère à Pied de Bœuf. La création de Jupiler Urtip en 1959, un an après le début de l'opération Mélanie. Né de l'esprit d'Albert Van Damme, qui avait observé le succès grandissant des bières de style Dortmunder, la Jupiler Urtip était la marque des bières de café de luxe de Pied de Bœuf avec une forte gravité. Elle avait commencé à 6% mais fut bientôt abaissée à 5,7%. Donc ben, voilà, comme on peut le voir, on oublie ceux qui travaillent directement sur la conception de la bière, c'est juste le patron qui est à l'origine de tout. Après ça, ben, on s'est dit ben, peut-être que la famille Pied de Bœuf aurait plus d'informations, donc nous avons pris contact avec Georges-André Pied de Bœuf, qui avait déjà participé à des travaux historiques sur l'histoire de sa famille. Il nous a fourni des visuels, notamment un certain nombre de photographies des laboratoires, mais toujours pas de traces de Martiniv.
Ok, ben donc si je ne m'abuse, après vous êtes allé un peu fouiner dans les archives officielles.
Oui, tout à fait. En fait, on a d'abord été très logiquement aux archives de la ville de Liège, parce que c'est là que M. Martiniv a vécu. Et d'ailleurs, s'est marié avec une Ukrainienne en 1943. Ensuite, nous sommes allés aux archives générales du Royaume à Bruxelles, où nous avons pu consulter deux dossiers concernant Alexandre Martiniv. Alors le premier, c'est un dossier intitulé « La naturalisation » et l'autre, un dossier « Étranger ». Alors j'ouvre le dossier étranger et je vois le nom Brasserie Pied de Bœuf. Bon, je lis le document, il date de 1939, il émane du ministère des Affaires étrangères et il donne le feu vert à la Brasserie Pied de Bœuf pour engager Martiniv comme un ingénieur chimiste. Donc l'appel a été autorisé par la durée de son séjour sur le territoire belge et en fait son statut, comme vous le disiez, Madame Martiniv, de son statut de réfugié politique en fait. Il était là depuis près de 10 ans en fait à l'époque. En 1931, on sait qu'il travaille en tant qu'ouvrier mécanicien à XL, en même temps qu'il terminait ses études de maître brasseur à l'Institut des techniques de fermentation qui est aujourd'hui devenu l'Institut Meurice. On a retrouvé un rapport de police qui d'ailleurs, je cite, atteste de sa moralité, de sa grande moralité. Et en fait, c'était très, très important à l'époque, surtout pour un étranger. Je pense que ça revient un peu avec ce que vous disiez,
Christine.
Ok, donc bah, si on récapitule à ce stade, vous avez une preuve qu'il a bien travaillé dans la brasserie. Et grâce au discours, vous savez qu'il a été remercié pour la création de la Jupiler. Mais est-ce que ça suffit finalement vraiment à affirmer que c'est lui l'inventeur officiel ?
Bah, c'est une bonne question. Donc, évidemment, il travaille en équipe et sous les ordres directs, forcément, de la direction de la brasserie Pied de Bœuf. Donc, déterminer qui a fait quoi exactement, bah, c'est presque impossible aujourd'hui, malheureusement. Les autres collègues de l'époque sont évidemment tous décédés. Donc, à ce stade, bah, on peut affirmer que Martiniv était chef de laboratoire au moment de la création de la Jupiler. On ne peut pas dire que c'est lui le seul inventeur, en tout cas nous on ne peut pas l'affirmer, mais il a manifestement joué un grand rôle dans sa conception, ça c'est absolument certain. Donc ici clairement, on est dans un cas d'histoire officielle contre une histoire oubliée. On parle de ceux qui ont pris les décisions, mais on oublie souvent les petites mains, les anonymes en fait, qui ont participé à l'écriture de l'histoire avec un grand H. Donc dans cette histoire, Alexandre Martiniv fait partie entre guillemets des oubliés, mais dont l'importance ne peut pas être ignorée.
D'accord, ben merci beaucoup pour ces éclaircissements. Madame Martiniv, je me retourne vers vous. L'enquête, elle a finalement retracé l'histoire oubliée qui est un peu en parallèle de l'histoire officielle et les recherches de Thomas Carabin et de Thomas Radou s'arrêtent ici pour l'instant. Mais est-ce que les vôtres s'arrêtent ici ?
Bah, non, parce qu'évidemment, ça me donne envie d'aller plus loin. Moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est que, voilà, il est ingénieur, il travaille dans une entreprise. Bah, forcément, ce qu'il a inventé appartient à l'entreprise. Mais quelque part, on oublie qu'au départ, ce n'est pas l'invention du directeur. Le directeur, il est directeur, il n'est pas ingénieur. On n'est pas ingénieur et directeur, on n'est pas directeur et ingénieur. Donc forcément, et ce qui m'intéresse, c'est que ce qui appartient à César revienne à César. Il a inventé la Jupiler Urtip. C'est dans le discours de départ. C'est un fait. Mais maintenant, comme par hasard, évidemment, c'est oublié. Voilà.
D'accord. Donc peut-être qu'un jour, on lira le nom de Martinive dans les livres d'histoire.
Je ne sais pas si on ira jusque-là, mais disons que le fait qu'on sache que c'est lui qui l'a inventé, je trouve que pour lui, c'est important. Il n'a pas rien fait, ce n'est pas qu'un immigré, ce n'est pas qu'un réfugié politique. C'est quelqu'un qui s'est intégré dans le pays, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose. Et ça nous rappelle que le monde est un monde rempli de personnes différentes et que, voilà, il ne faut pas renier les étrangers.
Je me permets d'interrompre un tout petit peu. C'est vrai qu'on a retrouvé des documents comme quoi il était président de l'Union des ingénieurs ukrainiens. Et c'était manifestement quelqu'un, on a les preuves que c'était quelqu'un de très impliqué dans sa communauté. Je pense que vous l'avez raconté, que c'était qu'il était impliqué. Vous savez ce qu'il y avait dans... Ce qu'on disait, est-ce que votre père savait qu'il, un petit peu, au niveau de l'Union des Ukrainiens, qu'est-ce qu'il faisait ?
J'en sais rien, peut-être qu'il le savait, mais honnêtement, ça, je n'en sais rien du tout. Je sais que mon père me disait qu'il y avait des gens qui venaient, si des gens avaient des Ukrainiens avaient des questions à poser, ils venaient chez lui, et c'est comme ça qu'il s'en rendait compte, lui, enfant, qu'il était important, parce que les gens venaient jusqu'à lui, et c'était toujours chez lui qu'on venait. Mais à part ça, j'ai pas d'autres informations. Et c'est ça qui est terrible, je trouve, c'est que je sais plein de choses, mais je ne sais rien. Et il n'y a plus personne qui peut vraiment m'en donner. Mon oncle m'en a donné un petit peu. Ma maman, comme vous disiez, dans la valise, il y a plein de choses qui sont écrites en russe, je suppose. On ne sait pas les lire, inutile de dire. Donc voilà, on a des infos sans en avoir, puisqu'on ne sait pas, on ne sait rien traduire, quoi.
D'accord, et vous envisagez une autre piste pour pouvoir continuer ces recherches ?
J'ai pensé à un truc, mais que je ne dirai pas ici, et que je vais essayer, on ne sait jamais.
Voilà. Bien, on restera à l'affût pour une update sur la situation.
Peut-être.
Ben, merci encore pour vos réponses, Thomas Carabin et Thomas Radou, et merci aussi à vous, Christine. Aujourd'hui, du coup, si la découverte de ce discours n'a pas réellement changé quoi que ce soit d'un point de vue administratif ou légal, vous penserez sans doute à un certain chimiste d'origine ukrainienne lorsque vous ferez un saut par Jupille ou que vous dégusterez et décapsulerez votre prochaine Jupilère. Vous trinquerez à la santé d'Alexandre Martiniv. Notre émission touche maintenant à sa fin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à Yves Collinet, à la régie, à Laura Houbet et à Adrien Huberti pour la construction de cette édition spéciale, mais également à nos intervenants ici en plateau, sans qui cette belle histoire serait restée finalement pas vraiment dépoussiérée. Et nous, on se donne rendez-vous dès demain 9h pour votre résumé quotidien de l'actualité, toujours sur 48FM. Belle soirée à tous.
Merci. Impact.